Bien, Shavuot Tov. Pour ce premier Malavé Malka de la nouvelle année, on a un petit peu de retard. Je vais parler donc du temps en général et surtout d'un temps pour nous, pour les Bnei Israël. L'Anne de Vilna enseigne que le mot Bereshit fait référence donc à la création, fait référence en réalité à la création du temps. On dit que la première chose qui a été créée, c'est le temps. C'est un temps dans lequel il y a d'abord le jour et ensuite la nuit. On voit dans le verset Vayi Erev Vayi Boker Yom Echad. Fut soir, et ça a duré donc jusqu'au lendemain matin, et à ce moment-là, on a pu dire sur ce qui était passé, Yom Echad, voilà, le premier jour est terminé. Ça, donc, la journée, la partie lumineuse, avant la partie nocturne. Donc, si vous préférez, le chesed, la générosité, avant la rigueur, avant le dîme. C'est comme ça. Hier et Vaïvoker, ça veut dire quand on a, il y a une création, on est allé jusqu'au soir, et la nuit qui suit, elle se termine par Boker, et on dit Yom Echad. Ce temps-là, c'est Yom Echad. Le chesed avant le dîme, le chesed avant la gvoura, la générosité, donc, l'ouverture avant la rigueur, avant une refermeture partielle en tout cas, et c'est le temps tel qu'il se déroule au Beit HaMikdash. Dans le temps se déroule de cette manière-là aussi, on apporte un korban le jour, et ce korban peut être consommé la nuit qui suit, éventuellement deux jours, mais la nuit qui suit jusqu'au lendemain matin, comme tout le monde le connaît au sujet de la ficomane qui remplace le korban Pessah et qu'on peut manger, certains disent jusqu'à Hatzot, jusqu'à la minuit ou jusqu'au lendemain matin. Donc on a porté le korban Pessah de jour, on le mange et on a jusqu'à la fin de la nuit pour le manger. Tout se déroule dès lors, donc d'après le Gaon de Vilna, tout ça va se dérouler dans le temps. Par parenthèse, dans la fabrication du clan Israël, dans la construction du peuple juif, ça fonctionne également de la même manière. Abraham précède Yitzhak. Abraham qui est le chesed, précède Yitzhak qui est le din, la rigueur. Le Ramban dit que Bereshit, c'est donc une création dont on dit qu'elle est Yesh Me'ayin, ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, pas un rien dont on, pas le rien de trois fois rien, etc., un vrai, un rien sur lequel on ne peut même pas, on ne peut rien dire du tout. Mais le Ramban dit que ça ne concerne que la première création. Ensuite, c'est Yesh Meyesh. Ensuite, c'est une création à partir de ce qui a été créé dans ce premier instant. Donc, d'après le Gaon de Vilna, la seule création qui est à partir de rien, c'est le temps. Nous, on aurait dit, par exemple, pour tenir compte uniquement du Ramban, sans le kidouche du Gaon de Vilna, on pourrait dire que la seule chose qui a été créée à partir de rien, c'est une espèce de réserve d'énergie, et qu'ensuite, tout le reste, c'est, en quelque sorte, certaines dégradations de l'énergie sous toutes sortes de formes, à partir de cette énergie, mais cette énergie serait créée à partir de rien. Puis ensuite, tout se déroule avec cette énergie créée de base. Mais on va travailler avec le Gaon. Ce qui a été créé en premier, c'est le temps. Rashi dit clairement que tout a été créé le premier jour. Rashi au pasuk Yudalet. Et les jours qui suivent ne viennent que déployer ce qui a été créé le premier jour. De la même manière, vous savez, dans Pirkei Avot, on enseigne que le monde a été créé par Asara Ma'amarot, que le monde a été créé avec 10 paroles. Donc c'est les 10 occurrences du Vayomer dans les premiers versets. Sauf que quand on compte, on s'aperçoit qu'il n'y en a que 9. Les Chazal disent que Bereshit compte lui aussi comme un Ma'amar, comme un Vayomer. Et donc, ce Bereshit-là, qui a donc un statut différent des autres, c'est un Ma'amar, mais un Ma'amar qui est Yesh Me'ayin, d'après Ramban, qui est création du temps. Et tout le reste, les autres Ma'amarot, les autres paroles, elles viennent également déployer ce qui a été créé le premier jour. Et on retrouve cette structure-là dans les Aseret Adibrot, dans les 10 commandements. Les 10 commandements, quand vous regardez les psukim, vous voyez, Rashi le dit, c'est pas, cette fois-ci c'est très clair, le Maharal le répète, elle le déploie, enfin l'explique plus, mais c'est déjà dans Rashi. En fait, tout a été dit en même temps par Akadosh Baruch Hu. Seulement nous, pour nous, ce n'était pas perceptible. Nous, on ne pouvait pas entendre ce qui a été dit, parce que tout a été dit de façon compacte. Et donc, les 10 commandements par la suite, c'est le déploiement de ce qui a été dit de façon compacte. On va ouvrir, déployer les choses pour que les êtres humains puissent comprendre, entendre d'abord, comprendre ce qui a été dit là. Mais tout est là depuis le début, tout est là depuis le premier jour, tout est là dans la première parole. Certains disent même que c'est dans le Aleph de Anochi que tout se retrouve. Tout ça, ça veut dire que même de la même manière que dans les Aseret Adibrot, toute la Torah est un même inyan, un même sujet en quelque sorte, les 6 jours en question sont aussi un seul même jour, si on peut parler comme ça. Adam, l'homme, l'être humain, est créé durant le 6e jour de ce temps-là. La caractéristique de cet Adam, c'est d'avoir une neshama. C'est-à-dire qu'il y a en lui ce qui est présenté comme une forme de respiration divine, la neshima. Et alors, on doit redéfinir ce début du monde, le point de départ du monde. On a déjà dit plusieurs fois qu'on dit à Rosh Hashanah, après les Tkiyot, on le dit très clairement, Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde a été créé. Et tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Bon, parce que Rosh Hashanah, ça n'est pas la création du monde. Rosh Hashanah, c'est la création de l'homme. Mais ce jour-là, de la création de l'homme, c'est le moment où ce qui avait été créé durant les 6 jours, enfin 5 jours plus le début du 6e jour jusqu'à la création de l'homme, que tout ce qui a été créé est vu par cet Adam, qui est capable, grâce à sa neshama, il est capable d'attribuer ce monde à Hachem. Et c'est ça le but de la création. l'homme donne, par cette capacité-là, il donne sa forme au monde, sa tsoura, il donne sa forme au monde. Il y a un petit problème, c'est que dans Hayom Harat Olam, le mot Harat ne veut pas dire créer. Le mot Harat veut dire conçu. Pas de la conception et pas de la création. Alors, évidemment, s'il est conçu à ce moment-là, on doit demander, mais combien de temps de gestation pour ce monde qui est conçu le sixième jour, qui devient donc par là même Hayom Harat, hein, le Rosh Hashanah, le commencement de l'année. C'est le commencement de la première année, le commencement du monde. A priori, la gestation, elle va durer jusqu'à la sortie d'Égypte. Plus précisément, la naissance a lieu à la fin de la sortie d'Égypte. La fin de la sortie d'Égypte. Donc tout est en suspens jusqu'à ce fameux 6, Sivan. En fait, ça sera le 7, mais ça c'est mon cher ami. Jusqu'à ce fameux 6, Sivan. Ce 6 qui vient de Yom HaShishi. Quand on fait Kiddush, Yom HaShishi. Normalement, on aurait dû dire Yom Shishi. Comme on a dit Yom Sheni, Yom Shlishi. Hashishi fait donc, Rachid rapporte, ça fait référence à un autre 6, à un autre sixième jour. Mais pas un sixième jour dans le temps des semaines, si vous voulez, pas un Erev Shabbat, mais un sixième jour, le 6 Sivan, un sixième jour dans un mois, sixième jour du mois. Où Rashi rapporte qu'Hachem a dit « Je crée le monde. Si les Bnei Israël acceptent la Torah, alors ce monde va durer. Et si les Bnei Israël n'acceptent pas la Torah, alors je ramène ce monde au chaos initial. » Bon, les Bnei Israël n'ont pas eu tout à fait le choix, on leur a un peu imposé d'accepter la Torah, et donc le monde a continué, c'est pour ça qu'on est là. Il y a une première question qui est que ce premier jour, au lieu d'être appelé Yom Rishon, qui aurait dû être son nom, puisque le deuxième est Sheni, Shlishi, etc., c'est que ce premier jour est appelé Yom Echad. Jour 1. On explique que ce jour-là, il est appelé Echad parce que tout ce qui a été créé ce jour-là, c'est-à-dire des choses uniques, des choses qui n'avaient jamais existé et qui ne sont pas des transformations ou des modifications, des élargissements, des rétrécissements, etc., de ce qui a été créé initialement. Le temps, le temps est donc en rapport avec ce qui est créé dans le temps. Il est nommé avec ce qui est créé dans ce temps-là. Et puisque ce jour-là, tout était unique, alors il s'appelle Yom Echad. On a donc redéfini le moment du début du monde. Le monde, a priori, quand on regarde la Torah, il semble être créé à Bereshit, il semble être créé. Voilà. Non, on va considérer que le début du monde, c'est le moment où il y a un homme qui va pouvoir observer et aussi agir dans ce monde et rapporter le monde à Hachem. On On est allé jusqu'à la naissance. La naissance, bon, fin de la gestation, quelque sorte, de cette création de, qui a commencé au... ce qui s'appelle Yom HaShishi. Et puis, il y a l'émergence d'un nouveau temps, un temps propre au clan Israël, un temps pour nous. Ce temps, il est indiqué dans la première mitzvah que les Bnei Israël, que le clan Israël va recevoir dès qu'il, même avant qu'il commence à exister en réalité, encore en Égypte, encore en Galoute, on verra, encore en exil, les Bnei Israël reçoivent leur première mitzvah. C'est dit à Chodesh Hazeh Lachem. Ce mois-ci, pour vous, Klal Israël, pour vous, il sera Rosh, il sera le premier des mois. Le premier des mois, c'est ce qu'on appelle le début de l'année. C'est un temps, alors on sait, ce premier mois, là, c'est le mois de Nissan. C'est donc un nouveau temps. Et la sortie d'Égypte se déroule dans ce temps. Alors, ce temps-là, c'est-à-dire ce défilement des mois, il correspond avec le temps des nations. Puisqu'il y a une discussion dans la Gemara pour savoir si le monde a été créé en Tishri ou en Nissan. C'est-à-dire, est-ce que le monde a été créé en automne ou au printemps? Si vous voulez, est-ce que le temps du monde qui commence va vers la lumière, va vers le printemps, vers l'été? Ça, c'est si le monde a été créé en Tishri. On commence en automne et on va vers la lumière, on passe par l'hiver et on va vers la lumière. Ou alors, si le monde a été créé au printemps, donc on va passer par l'été, mais on va vers l'obscurité. C'est la correspondance avec le jour qui... ce qu'on appelle un jour, ou bien commence par la nuit, et se continue et se termine par le jour. C'est le temps que nous vivons. Le Shabbat commence, les fêtes commencent par la nuit, et on va vers la lumière. C'est-à-dire, c'est le temps Tishri, en fait, qui correspond à un début en Tishri. Ou alors, comme au Beth Amikdash, on commence par la journée, on va vers la nuit, ça correspond à la création en Nissan. Alors, notre temps spécifique commence en Nissan. Donc, selon qu'on pense que le temps de tout le monde, le temps des Umot HaOlam aussi, se compte à partir de Nissan ou à partir de Tishri, on est ou on n'est pas en phase avec ce temps. Parce qu'en vérité, chez les Bnei Israël, comme on veut bien le penser, c'est complexe parce que on vit avec les deux temps. On vit avec, par rapport au Regalim par exemple, par rapport aux trois fêtes de pèlerinage, sont donnés dans l'ordre. Pessah, Shavuot, Sukkot. Elle commence en Nissan. Mais l'année, elle commence à Rosh Hashanah, en Tishri. Donc il y a un décompte aussi qui va commencer à compter les mois. Alors, on pourrait compter les mois à partir de Tishri ou compter les mois à partir de Nissan. Donc là, Israël vit avec les deux temps, en réalité. Donc, juste pour y voir un tout petit peu plus clair, on a une suite de temps. Tout commence avec des mondes créés puis détruits. Zal disent Kadosh Baruch Hu bara olamot v'ichrivan. Hashem a créé les mondes et il les a détruits. Puis, il a créé notre monde. Il a créé Adam, avec ce temps qui commence avec Adam. Il y a l'échec d'Adam et de sa famille. Bon, c'est, quand on parle d'Adam, en fait, il faut penser à Adam et la famille. D'après Rashi, les enfants de Adam et Hava, Caïn et Abel sont nés avant la faute. Donc, c'est eux, c'est cette entité-là qui s'appelle Adam. Les enfants qui sont nés avant la faute, ils sont nés à un couple, dans un couple qui était immortel. Donc les enfants ne viennent pas compenser la mort. Avec Noach aussi. Noach va survivre au déluge. C'est une famille qui commence. C'est Noah, ses fils, et la femme de Noah, et les femmes des fils. C'est cette entité-là qui commence. C'est eux qui vont se partager le monde, enfin les fils vont se partager le monde. Comme Caïn et Abel s'étaient partagé le monde. Cette fois-ci, d'après ça, le partage ne se fait pas à deux, mais à trois. Il y a trois fils de Noé. Juste, là, quand on parle de la famille d'Adam Arishon, c'est la femme d'Adam, Chava. C'est la jumelle qui est née avec Caïn et les deux jumelles qui sont nées avec Hevel. Dans les Sfarim, on dit qu'il fallait arriver à sept personnes. C'est comme ça qu'on y va. On a Adam, Chava, on a Caïn et une jumelle, et Hevel et deux jumelles. Ça fait sept personnes. De telle sorte que ça corresponde aux sept jours de Bereshit, y compris le Shabbat. Ces jours qui contiennent, comme on a dit, ça contiennent d'une certaine manière tous les jours de l'histoire. Et ces sept personnes, d'une certaine façon, elles contiennent tout le monde. La création de cet homme a duré toute la journée du sixième jour. Dans la Gemara, on nous fait le détail du jour de la création d'Adam. Ça dure, c'est pas un instant seulement. L'homme est une forme du monde, c'est-à-dire, c'est parce que, si vous voulez, tant que l'homme n'a pas de compagne, il n'a pas de bat zoug, il n'a pas un autre être qui fasse pair avec lui, qui soit son complément, alors son nom, son lien avec les animaux, c'est en quelque sorte un lien dans lequel il est leur forme, la forme du monde en général, et eux, les animaux, le monde, et sont la matière à laquelle l'homme donne de la forme. On a donc, après les mondes créés et détruits, après l'échec d'Adam, le monde continue, on est dans un monde créé et presque détruit. De deux manières, par le déluge et par la dispersion, la destruction, la structure du monde, son organisation, son unité, suite à la construction de la tour de Babel. Et à ce moment-là émerge Abraham. Et puis ensuite, on a un Israël-monde, si vous voulez. C'est-à-dire, Abraham a accepté de faire, lui et ses descendants, ce qui incombait en fait au monde tout entier. Donc Israël devient le monde. Et cet Israël, il est presque détruit avant d'avoir commencé. Chaque patriarche, chacun des trois piliers fondateurs du clan Israël est presque détruit. En fait, cette presque destruction va le grandir. En fait. Abraham, il est presque détruit dans la fournaise, il sera presque détruit dans la Akeda, dans la ligature donc, de Yitzhak, sur le Mizbeach. Et Yaakov est presque détruit par la vanne. Bikesh Laakor et Akol. Ça survit. Et néanmoins, l'enseignement d'Abraham est presque totalement oublié durant l'exil égyptien. L'exil égyptien, l'exil, c'est encore paradoxalement l'exil avant la naissance du peuple. Nous sommes en exil avant d'exister comme peuple. Le peuple juif n'existe que au pied du Sinaï. Quand ils sortent d'Égypte, ils accèdent à Matan Torah, alors le Passouk parle du clan Israël. Il en parle au singulier, jusque-là on parle d'eux au pluriel, c'est-à-dire comme si c'était un amas de personnes. Mais il n'y a pas de peuple encore. Donc nous sommes exilés avant d'exister comme peuple. Donc tout cet enseignement d'Abraham est pratiquement oublié durant cet exil. Il reste seulement dans la tribu de Lévi. Donc on recommence tout au moment de Matan Torah. Donc, les Bnei Israël acceptent la Torah dans ce fameux 6-7 Sivan. Les Bnei Israël retrouvent l'immortalité. Ils se retrouvent dans la situation qui était celle d'Adam avant que Adam ne faute. Matan Torah, c'est avec Moshe Rabbeinu, c'est la gloire d'Israël, le moment le plus élevé de l'Israël. Ça ne dure pas. Les Israël font le Egel Azahab, ils font le Vaudor, et Israël est condamné à disparaître. Hachem décide de détruire le plan Israël. De la même manière qu'il y a ces mondes qui, certains mondes ont été détruits et on est dans un monde qui a presque été enfermé, dans un monde qui a presque été détruit. De la même manière, les Bnei Israël vont être sauvés par Moshe Rabbeinu de cette destruction totale. Puis ensuite, ils vont retomber, ils ne seront pas sauvés complètement par Moshe Rabbeinu avec l'histoire des explorateurs. Bon, et ça continue. Le clan Israël va construire d'abord, mais ensuite il va perdre le premier, le deuxième Beth Amikdash. Il va y avoir les exils successifs. Et le galout actuel, le galout dans lequel nous sommes encore là, avec deux énormes moments, sont l'expulsion des Juifs d'Espagne et la destruction du judaïsme européen en 33-45. C'est des temps, une suite de temps. De façon classique, parle d'un temps linéaire et d'un temps circulaire. Évidemment, le temps d'Ebné Israël n'est ni linéaire ni circulaire, il est différent. Dans le temps d'Ebné Israël, il y a un travail permanent de mémoire. Aujourd'hui, on sait bien que la mémoire, ça n'est pas quelque chose qui serait comme l'exhumation d'une photographie. Mais c'est une reconstruction. C'est pour ça que, des fois, notre mémoire nous joue des tours, si on veut. C'est-à-dire qu'on reconstruit quelque chose qui n'a jamais eu lieu, et dont on est certain que c'était comme ça que c'était, mais c'est une construction avec certains éléments, et on construit quelque chose. Donc là, l'Israël est sans arrêt avec ce souvenir du passé qu'il faut réinscrire dans le présent, et c'est difficile à dire le souvenir, mais aussi une espèce de souvenir du futur à préinscrire dans le présent. Il y a d'autres temps, il y a un temps relatif, le temps de l'amour, Yaakov et Rachel, dont je ne parlerai pas ce soir. Dans le temps, il y a le fameux temps du Shabbat. Le temps du Shabbat, c'est en fait, comme je viens de le dire précédemment, une espèce de temps triple. Vous savez bien que, on le voit dans les prières du soir, du matin et de l'après-midi, du Shabbat. Le soir, on fait référence à Bréchit, à la création. Le matin, on fait référence, Marc Moshe, on fait référence à Matan Torah, et à Mincha, on fait référence au temps messianique. Le Shabbat, c'est un jour avec de multiples aspects. On a tout le temps, en quelque sorte. Le passé, le présent, le futur. Matan Torah, c'est présent, dans le sens où Matan Torah, ce n'est pas un événement. C'est quelque chose qui dure toutes les générations. La Torah qui est étudiée, c'est un Matan Torah. Le Shabbat s'élève au-dessus des jours de la semaine. Il en est séparé. Une Avdala, pour revenir dans les jours de la semaine. De la même manière que le clan d'Israël est séparé des Umot HaOlam, des peuples. Et c'est pour ça qu'il y a ce lien entre Shabbat et Israël, qui sont séparés. C'est-à-dire, la séparation, c'est le niveau zéro de la Kdusha, de la sainteté. Le Zman, le temps du Shabbat. C'est un temps, on peut dire, saint pour le peuple qui a vocation à être un peuple saint, et le lieu, c'est un pays qui exige une conduite de sainteté de la part du peuple qui a vocation à être saint. De ce point de vue-là, le temps et l'espace sont égaux. Sont tous les deux singuliers en quelque sorte. Il y a ensuite le temps de la semaine, un temps profane, mais un temps qui est au service du Shabbat, et un temps qui va être référé au Shabbat. Les jours de la semaine n'ont pas de nom. Ils sont numérotés par rapport au Shabbat. Il y a un troisième temps, qui est le temps de ce qu'on appelle les temps des moadim, le temps des rendez-vous avec Hachem. Alors ça, c'est compliqué. Parce que ces rendez-vous avec Hachem sont complètement différents du Shabbat. Les rendez-vous avec Hachem, ils dépendent du calendrier. Par exemple, on l'exprime dans la bracha, les moadim, où on dit Mekadesh Israël ve'azemanim. Hachem sanctifie Israël et Israël sanctifie le temps, les rendez-vous en question. Ça, c'est par opposition au temps du Shabbat, où c'est Hachem qui est Mekadesh à Shabbat. Ça ne passe pas par l'Ebnei Israël. Ce temps du Shabbat, il est fait par Hachem. Et les Bnei Israël doivent le vivre comme Hachem, si on peut parler comme ça. Là, c'est un temps d'imitation d'Hachem. Hachem a fait Shabbat, nous aussi on doit faire Shabbat. En d'autres termes, on doit prendre un jour, qui semble être un jour comme les autres, et le transformer complètement, sur le modèle de ce qu'Hachem a fait. Alors on verra ce qu'on veut essayer de faire dans cette transformation. Mais on a un calendrier dans lequel les moadim s'inscrivent. Ce calendrier, il est complètement dépendant des Bnei Israël. Cette première mitzvah dont je vous ai parlé, cette définition d'un temps spécifique au Bnei Israël, c'est pas simplement que, voilà, il y a le mois de Nissan, on commence à compter depuis le mois de Nissan. C'est que ce mois de Nissan, comme les autres mois, fait l'objet d'une mitzvah particulière. Nous, on n'a pas tellement l'habitude, parce que vous avez tous acheté... reçu ou vu un calendrier pour cette année 5076. Et bon, alors, c'est un agenda comme les autres agendas, mais ça, c'est parce qu'on est en galoute. En réalité, on devrait faire autrement. En réalité, on a une mitzvah qu'on a reçue, qui est cette première mitzvah, c'est très intéressant. Une mitzvah de définir le temps. C'est nous qui définissons le temps. Vous devez, on ne doute de rien. Non, on doute de rien. On définit le temps. Comment ? Il y a une mitzvah spécifique qui est donnée aux Bnei Israël. Les Bnei Israël doivent observer le ciel. Et quand ils voient le premier croissant de lune, le tout petit croissant de lune qui commence, après qu'il y ait eu une obscurité complète, ils doivent aller à Yerushalayim et témoigner devant le Sanhédrin de ce qu'ils ont vu. Et le tribunal va vérifier qu'ils n'ont pas pris un petit nuage qui avait une forme un peu spéciale pour la croissance de lune. De toute manière, eux, le tribunal savait calculer la nouvelle lune, donc ils savaient si c'était possible que la nouvelle lune ait été vue. Alors ils allaient, on va là-bas, on témoigne. Et quand le témoignage est accepté, le chef du Sanhédrin proclame le nouveau mois. Et si la personne qui est venue attend, alors bon, le lendemain, ça sera le nouveau mois va commencer le lendemain. Donc le mois précédent, il aura 29 ou 30 jours. Selon que les témoins sont venus, à temps, si vous voulez, ou pas. Mais le tribunal, enfin le Sanhédrin, est encore bien plus puissant que ça. Il est souverain par rapport à ça. C'est-à-dire que si les témoins viennent et que le Sanhédrin s'aperçoit que si on entérine leur témoignage, alors on aura des ennuis par la suite. C'est-à-dire on aura un Yom Kippour qui va tomber, Motsei Shabbat, dimanche, ça nous dérange. Alors le tribunal ne tient pas compte du témoignage. Il met le témoignage de côté. Même si le tribunal se trompe, la décision du tribunal qui se trompe est néanmoins valable. Donc, ce sont vraiment les pays d'Israël qui décident. C'est le mois de Nissan, mais qui dit quand commence le mois de Nissan? C'est nous. Le Sanhédrin. Alors, ça veut dire que les moadim qui sont fixés dans le calendrier, bon, vous avez Pessah, la nuit de Pessah c'est du 14 au 15 Nissan, mais ça dépend quand est le premier Nissan. Donc c'est des rendez-vous avec Hachem, un moed. Ça veut dire qu'on dit Hachem, nous, ça ne nous arrange pas ce jour-là, on préfère un autre jour. Et on fait ça avec Rosh Hashanah aussi, qui est un jour de jugement. Hachem prépare les dossiers pour nous juger, mais nous, ça ne nous arrange pas ce jour-là, on fera ça demain. Donc Hachem, il referme les livres, et puis on sera jugé le lendemain. Les Bnei Israël sont souverains là-dedans. Donc c'est un temps, mais Kadesh Israël, mais Azman. C'est ça, le temps il est pour nous, par nous, en quelque sorte. C'est pas du tout la même chose que le Shabbat. Le Shabbat revient régulièrement sans que Bnei Israël puisse rien faire pour le déplacer, le cas échéant. Ça, c'est le temps du Shabbat, le temps de la semaine, le temps des Moadim. On voit dans la littérature rabbinique que les mois sont associés au signe du zodiaque. Alors tout ça c'est très bien, il y a une correspondance entre les mois et les signes du zodiaque, avec des connotations sur ces mois qui sont zodiacales, si vous voulez. Chaque mois est associé à un signe zodiaque. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Notre calendrier est un calendrier lunaire. C'est-à-dire qu'il a une année et 354 jours. Quand on veut faire Pessah, on sait que le deuxième jour de Pessah, on doit apporter un corban qui s'appelle le corban du Homer. Ensuite, on va compter le temps à partir de ce corban. On va compter 7 fois 7 jours, donc 7 semaines jusqu'à Shavuot. Jusqu'à le temps de Matan Torah. Ce corban du Homer, il est approché avec de l'orge. C'est de l'orge qu'on approche. Et l'orge, pour qu'on puisse l'approcher, il faut qu'il soit mûr. Donc à peu près à l'époque de Pourim, peut-être un peu avant, les Chachamim vont regarder où en est l'orge. Et si l'orge n'est pas assez avancée, ou si on évalue qu'il ne sera pas mûr après ça, alors on va ajouter un mois supplémentaire à l'année. On va insérer ce mois avant, juste avant Nissan, juste avant Pessah, si vous voulez. On appelle ça Adar Sheni, deuxième Adar. Mais le problème, c'est un des problèmes, c'est que on n'a pas assez de signes du zodiaque. Alors, ce mois-là, ben, il n'a pas de signe du zodiaque. Et le signe du zodiaque par rapport à un mois, c'est appelé le mazal de ce mois. Donc ce deuxième Adar, c'est un mois sans mazal. C'est-à-dire sans aucun déterminisme. C'est ce que Haman ne savait pas. Haman, il avait choisi le mois d'Adar. Bon, parce qu'il pensait que c'est le mois de la mort de Moshe. Il ne savait pas ce que c'est aussi le mois de sa naissance. Et surtout, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les Chachamim allaient décaler, ils allaient insérer un deuxième mois de Hadar. Et quand on insère un deuxième mois de Hadar, c'est ce deuxième mois qui contient le Pourim et les anniversaires de naissance et de décès de Moshe Rabbein. Donc il était complètement à côté de la plaque. Lui qui avait prévu que ce serait au Hadar, il ne savait pas qu'il y en aurait un deuxième. C'est un peu anecdotique. Mais bon, c'est important. Il existe donc un mois sans mazal, c'est sans détermination. Certains lisent que quand Moshe Rabbeinu a demandé à Yoshua, choisis-nous des gens qui soient les gens adéquats pour faire la guerre contre Amalek. Amalek connaissait parfaitement les Mazalot, ils savaient très bien quand il fallait faire la guerre, et ils savaient aussi que les gens, quand ils naissent, ils ont aussi un certain Mazal. Je reviendrai, mais. Et donc, suivant qui on envoyait à la guerre, il aurait su comment faire la guerre contre ces gens-là, en connaissant leurs faiblesses. Mazalik, si vous voulez. Alors, Mazal dit que ce que Moshe Rabbeinu a dit à Yoshua, choisis des gens qui sont nés en Adar Sheni, des gens qui n'aient pas de Mazal. Comme ça, Amalek ne pourra pas savoir comment il faut se battre contre ces gens-là. On ne sait pas. Ils sont capables de tout. Ils sont absolument indéterminés. Donc, il fallait choisir des gens on ne sait pas comment ils vont sortir, ces gens-là. Ils n'ont pas de Mazal. Bon, il faut juste que j'ajoute quelque chose sur la notion de Mazal. Quand Abraham Avinu a été pris par Nimrod, c'était le grand guerrier, c'était lui l'organisateur de la tour de Babel. Alors, Nimrod a dit à Abraham, mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu parles de devenir un peuple, etc. Regarde, les astrologues chaldéens disent que tu as la planète rouge dans ton thème astral, dans ton terminus. C'est-à-dire la mort à l'horizon. Tu as la mort. Ta mort, il y a ta mort, et puis ensuite, il y a plus que ça, c'est que tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc, si quand toi tu meurs, tout s'arrête. Hachem a dit à Avraham Avinu, il a dit, c'est vrai ce qu'ils disent là. Toi, tu ne peux pas avoir, tu n'auras pas d'enfant. Avraham est l'homolite. Avraham ne peut pas avoir d'enfant. Ça veut dire que, à vue humaine, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et Hachem a donné à Abraham la seule mitzvah qu'Abraham n'ait jamais reçue. Abraham Avinu a pratiqué toutes les mitzvot, mais il ne les avait jamais reçues comme des ordres. Il avait compris que c'était ça qu'il fallait faire de lui-même. Hachem lui donne cette seule mitzvah. Cette mitzvah, c'est une mitzvah qui modifie le corps. Modifier le corps, c'est aussi modifier la personne. Pour entériner cette modification, Hachem lui a changé son nom. Il a dit, tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Il lui a ajouté la lettre He, c'est-à-dire, dans la gématria, il lui a ajouté 5 points. Du coup, sa gématrie, la gématria de son nom, la valeur numérique de son nom, c'est 248. Et 248, c'est, selon la Torah, le nombre de parties du corps. Donc, il était complet à ce moment-là. En enlevant cette partie-là, à ce moment-là, il est devenu complet. Ça veut dire qu'il avait quelque chose qu'il fallait enlever. Il faut, par la suite, il faudra enlever, mais en modifiant le corps, éventuellement, il y a une notion d'orlat alev aussi. Il y a la même chose avec le cœur. Quelque chose qui empêche le cœur de fonctionner pleinement. Ça aussi, ça nécessite une circoncision du cœur. Donc Hachem a montré à Abraham comment il pouvait sortir de ce déterminisme astral ou mazalé, si vous voulez. On peut en sortir. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que la sortie de son mazal, ce mazal qui disait que bon, c'est la mort, c'est le prototype de la mort, c'est le sang versé. Que pour en sortir, il faut verser du sang. On ne peut pas traiter ce problème-là par le mépris. On est obligé de verser du sang. Mais ce sang, on peut le verser autrement qu'en donnant la mort. Ce sang va devenir... Ce sang versé, là, va devenir un sang de vie pour Abraham Avinu. C'est le sang qui va lui permettre de vivre pleinement et d'avoir un enfant, etc. Donc, il faut que l'homme fasse quelque chose pour sortir de ce déterminisme. Il peut le faire. Ça implique, justement, de décider d'en sortir, de ne pas se laisser enfermer. Mais le Gaon dit, son mazal était rouge, si vous voulez, il ne pouvait pas s'en sortir en changeant de couleur de mazal, si vous voulez. C'est à l'intérieur de ce mazal rouge que tout l'éventail des comportements existe. On peut être un bandit des grands chemins, un assassin, on peut être un boucher, on peut être un chirurgien, on peut être un moël. Il y a tout l'éventail des comportements qui manipulent le verser le sang. Depuis les grandes avérotes jusqu'à la grande mitzvah. Donc, au moment, je vous ai dit, avant de naître, il était mort déjà. Avraham Avinu, avant d'être le premier patriarche, il a commencé par être potentiellement mort. Plus que potentiellement, s'il ne s'était pas arraché à cela, il aurait été mort. Pour le clan Israël, c'est exactement la même chose. Paro appelle Moshe Rabbeinu, lui dit, Bera, tu ne vois pas que vous avez le clan Israël est là dans son, au niveau du peuple cette fois-ci. Il a lui aussi ce déterminisme rouge, enfin cette planète rouge qui veut dire qu'il va mourir. Vous allez mourir dans le désert. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux sortir? Tu veux aller où? Alors mon cher Abinou, il a fait ce qu'Abraham Abinou a fait. Il a fait faire la Mila à tout le clan d'Israël. Mais ça ne suffisait pas. À l'échelle du clan, il faut faire quelque chose qui soit, disons, à l'échelle du clan. Alors, ce qu'il a fait, c'est que et Hachem a donné de nouveau cette fois-ci une mitzvah spécifique, qui est celle du Korban Pessah. Donc on va verser le sang du Korban Pessah. On va badigeonner, comme vous savez, les poteaux, le nato, etc. C'est une opération de nouveau dans laquelle on verse du sang. Nous avons l'habitude, quand on fait la mila d'un enfant, on dit, au moment de la mila, on dit Bedamayir Chayi, c'est-à-dire pas avec tes sang, vie. On a versé du sang. Ce sang, il est réminiscent des deux sangs, du sang de la mila et du sang du Korban Pessah. Grâce à cela, vie. Ce sang est devenu un sang de vie. C'est pas un sang de mort, c'est un sang de vie. Donc c'est ça le. Il y a à l'échelle de l'individu, à l'échelle du clan d'Israël, à l'échelle du temps, il y a des déterminations. La nouveauté, c'est que nous pouvons changer ces déterminations. Parce que si on insère un nouveau moi. C'est pas simplement que ce moi-là, il n'a pas de correspondant dans les signes du zodiaque. C'est que tout est décalé. De ce fait. Tout est complètement décalé. Et donc, régulièrement, on va décaler tout. Bon. Finalement, il y a bien une connotation, mais elle n'a rien à voir avec ce qu'on appelle les signes du zodiaque ailleurs. Que nous, on va se déplacer. Et donc, ça ne correspondra plus du tout à ce qui se passe dans le ciel, ou à ce niveau-là. Il y a encore, puisqu'on a parlé de la puissance de la Mila, de la puissance de la circoncision, qui permet de sortir du déterminé. La Mila, elle a lieu le huitième jour. Et le Maharal de Prague explique que 8, quand c'est lié au temps, c'est toujours un hors du temps. Le temps de la nature, le temps c'est 7, 8 c'est un hors du temps. La Mila, c'est faire, se soustraire au temps habituel. On soustrait l'enfant et on le met dans un autre temps. Il y a un autre moment d'un hors du temps. C'est Shmini Atzeret, le huitième jour de Sukkot, bon, qui est en fait, qui est appelé huitième jour de Sukkot, mais qui n'a rien à voir avec Sukkot. Il est complètement différent de Sukkot. C'est un jour dans lequel il n'y a plus les mitzvot, ni de la soukha, ni du lulav, etc. On n'amène plus les korbanot pour les homot haolam comme on le fait tous les jours de Sukkot. C'est un temps d'intimité avec Hachem. C'est un hors du temps du monde. Un temps dans lequel une relation particulière avec Hachem à ce moment-là. Bon, dans ce monde, les choses se déroulent. Sont en quelque sorte commandés par le temps. Les changements qui ont lieu dans toutes les choses sont des changements du temps en réalité. Et pourquoi est-ce qu'il y a des changements du temps? Les changements dans le temps sont des changements qui n'ont lieu que dans notre monde à nous, dans Olam Haba, il n'y aura pas de changement du temps. Maharal et d'autres expliquent que le monde, notre monde, a été créé avec la lettre He. Et Olam Haba a été créé avec la lettre Yud. Donc ensemble, ça fait un nom divin, Yud. À condition de mettre le Yud de la création de Olam Haba devant. C'est-à-dire, on vise cet Olam Haba, et le reste, c'est un Olam Hazé, c'est un corridor, un couloir qui mène au Olam Haba. Alors, le Yud, c'est un point. Donc, il ne peut pas changer. On ne peut pas le couper. Donc, il ne peut pas subir des changements. Donc, le monde qui est créé avec le Yud ne subit pas de changement. C'est Olam Haba. Il ne peut pas changer. La lettre He, c'est une lettre qui est décomposable. D'accord ? Vous avez trois jambages, si vous voulez, trois parties, trois traits, on peut les séparer, d'accord ? Et on peut donc décomposer la lettre E. Donc elle est soumise, elle peut être soumise à des changements. Donc ce monde qui est créé avec une lettre qui peut changer, qu'on peut décomposer, c'est un monde dans lequel il peut y avoir des changements. Les changements viennent de là, en quelque sorte. Ils viennent de cette... De la raison pour laquelle le monde a été créé avec un « et » pour qu'il puisse y avoir des changements. Les choses matérielles, elles s'inscrivent dans le « zman », dans le temps qui peut changer, en fait. Dans le Zman, comme le Zman dont on parle dans la Bracha de Mekadesh Israël ve'azmanim, les temps. C'est des temps qui peuvent bouger, qui peuvent changer. Les Bnei Israël peuvent faire changer ce temps-là. Il existe un autre terme qui désigne le temps. C'est la notion de et, aïd, itim, si vous voulez. Le Maharal dit, ces temps-là, c'est des temps pour les choses spirituelles. Ce type de temps est au-dessus du Zman. C'est le temps du huitième jour, où il se passe des choses spirituelles, des changements spirituels. C'est des changements, c'est-à-dire où les choses spirituelles se passent, ont lieu. Et il existe des gens qui sont appelés Yod-Ei Ha-Itim, ceux qui connaissent les Itim, justement. Donc, ceux-là savent, donc, ce dont le temps, les temps sont porteurs, en fait. Ou encore ce qui va arriver, si vous voulez. C'est des connaisseurs de la vérité des choses. Parce qu'ils en connaissent les causes, ce sont les itim. C'est le temps qui est la cause des choses, puisque tout se déroule dans le temps. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme, si on prend l'analogie que j'avais faite au début, du temps avec l'énergie, si on peut parler comme ça. Alors, de la même manière que tout, si on termine en termes d'énergie, que tout se déroulerait à partir de cette énergie initiale. De la même manière, tout se déroule à partir du temps initial. Donc, c'est dans ce temps que, comme on a vu, ce temps-là, c'est les six jours, mais c'est en fait, tout est dans le premier jour, au moment de la création du temps. Tout est là, simplement, dans l'histoire, ça va se déployer. Ça s'inscrit complètement, ça. Et donc les Yodé Haïtim, c'est les gens qui connaissent les causes, puisqu'ils connaissent les Haïtim. Comme si on disait qu'ils savaient ce qui allait arriver à ces moments-là. pour donner un exemple, il y a quelqu'un qui a prétendu en tout cas, qu'il y avait un être particulier qu'il connaissait. C'est Bilham. Lui, il disait, je connais ce moment particulier là où Hachem se met en colère. Et je sais l'utiliser. Parce que je connais la cause, donc je peux. Il avait une maîtrise. Et pour voir combien c'est important, c'est que Hachem a dû changer l'ordre du monde pendant ce temps-là. Plutôt que d'empêcher de faire en sorte que Bilham n'ait pas la force qu'il avait, Hachem a changé l'ordre du monde plutôt. C'est-à-dire les choses ne se sont pas déroulées comme elles auraient dû se dérouler. Il n'y a pas eu cette colère divine ces jours-là. En d'autres termes, pour nous, notre temps, c'est un temps double, si vous voulez. Il est à la fois du type Shabbat, c'est-à-dire du temps, du type, voilà, c'est un temps qui nous est donné, sur lequel on n'est pas maître, on ne peut pas le changer ce temps-là. Shabbat, ça sera toujours ce jour-là, mais ce jour-là, je dois le transformer. Ce jour-là, j'ai toute une semaine, si vous voulez, avant ce jour-là, pour le transformer, pour le préparer, pour le vivre d'une certaine manière, et cette certaine manière, c'est comme Hachem l'a vécu. C'est complètement fou, quoi, ça veut dire, voilà. Puisque Hachem l'a fait, alors moi aussi je vais le faire. Et Hachem me dit, tu dois le faire comme ça. Qu'est-ce que c'est ce Shabbat? Comme chacun sait, Shabbat c'est Me'en Olam Haba, justement. C'est dans ce monde-ci, importer quelque chose qui est de l'ordre de l'autre monde. Quasiment, si vous voulez, du huitième jour. Et seulement il faut le faire le septième. Alors évidemment, il faut l'introduire dans le septième jour. Donc comme les deux caractéristiques du Olam Haba, c'est que c'est un monde de la jouissance, d'une part, et que c'est un monde dans lequel l'homme ne peut plus rien changer, et qu'il n'a dans ce jour, dans ce monde-là, que ce qu'il avait préparé dans le monde préparatoire de Olam Hazeh. Alors nous vivons le Shabbat avec ces deux points forts, c'est-à-dire on vit le Shabbat avec la mitzvah positive qui s'appelle Oneg Shabbat, la jouissance du Shabbat. Alors la jouissance du Shabbat, c'est d'une certaine manière, on pourrait presque dire chacun sa jouissance. Seulement, en même temps, il faut tenir compte de ce que nous ne pouvons pas. Pour que le Shabbat ressemble à Olam Haba, il faut vivre comme si les travaux qui construisent le monde étaient, ce jour-là, ils sont interdits parce qu'ils n'existent pas dans l'autre monde. Olam Haba est un monde, comme je vous ai dit, qui est comme le Yud, c'est-à-dire il ne change pas. Donc on ne peut pas travailler dans ce monde-là. Dans ce Olam Haba. C'est fini. C'est ce que disait le Gaon de Vilna au moment où il allait mourir. Il dit qu'il pleurait et quelqu'un lui a dit « Mais tu exagères parce que tu as tellement bien rempli ton temps. » Il a dit « Je ne pleure pas pour ça. Je pleure parce que je quitte un monde dans lequel, pour quelques sous, je peux changer les choses. Je vais dans un monde où il n'y a aucun moyen de changer quoi que ce soit. » Donc cette idée qu'on ne puisse pas changer les choses. Alors, on copie ça et on le fait Shabbat. C'est-à-dire, c'est ça les 39 travaux interdits. Les travaux qui sont présentés comme les travaux qui construisent le monde. On n'a pas voulu interdire tous les mouvements. On a interdit ce qui construit le monde. On ne peut pas construire le monde parce que le monde, le Olam Haba, dans le Olam Haba, on ne peut plus rien construire. C'est en quelque sorte trop tard. Il fallait construire dans Olam Hazeh. Alors, fort de nous savons, il faut veiller à ne pas être trop tard. pas seulement le Shabbat, il faut veiller à construire pendant qu'on peut construire, et en même temps, savoir que ce que je construis, c'est, vous vous demandez si ce que je construis mérite de durer, en fait. Parce que ce que je construis mérite Olam Haba. C'est à nous de juger, alors. La Torah nous y aide. Le maître nous y aide pour savoir comment est-ce qu'il faut essayer de faire les choses. Et bien entendu, il faut y réfléchir en permanence. Il faut choisir, en fait. Il faut profiter du monde, parce que cette jouissance du monde, elle est nécessaire pour qu'on puisse construire. On a besoin de cette énergie que donne la jouissance du monde dans le cadre que la Torah nous a indiqué comme étant le bon cadre, en fait. On a besoin de cette énergie et dans ce domaine-là, il faut s'investir. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y avait sur la table des enveloppes pour la participation.